d'aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans Le Monde Aujourd'hui, édition des 17h30, temps universel de ce 12 mars 2020. John Lydon à la présentation, tout d'abord les titres de cette édition. Les initiatives en vue de la recherche d'une paix durable en Libye se multiplient. Plusieurs leaders se sont réunis ce jeudi à Brazzaville sous l'égide du président d'Eli Sassou Nguesso. En Centrafrique, pas moins de 13 personnes ont été tuées mercredi dans de nouveaux affrontements dans le nord du pays. Des morts également signalées dans une attaque au Niger. Des mesures sans précédent pour lutter contre la pandémie du coronavirus aux États-Unis. Elles ont été dévoilées hier par le président américain. Nous ferons le point de l'épidémie dans ce journal. Et puis, ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Mais tout d'abord, le journal. Bonsoir à tous. L'ex-ministre algérien des Affaires étrangères Ramdan Lamamra est pressenti pour remplacer l'émissaire de l'ONU en Libye, Kassam Salamé, démissionnaire. Monsieur Lamamra, 67 ans, a été à la tête de la diplomatie algérienne de 2013 à 2017. Plusieurs fois ambassadeur, il a été médiateur dans plusieurs conflits africains, notamment au Libéria, sous les auspices de l'ONU et de l'Union africaine. Dans un communiqué mercredi soir, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a annoncé la désignation de l'américaine Stéphanie Turco-Williams pour assurer l'intérim jusqu'à la nomination d'un successeur à Kassam Salamé. À propos de la Libye, justement, trois présidents africains, le président de la Commission de l'Union africaine et des représentants de l'ONU et des gouvernements algériens et égyptiens se sont réunis aujourd'hui à Oyo, au nord de Brazzaville. Ils veulent baliser la voie devant conduire à la tenue d'un dialogue inter-libyen. Eric Manirakiza.
Le président congolais Denis Sassou Nguesso a appelé à une composition équitable de la commission préparatoire de la conférence de réconciliation nationale inter-libyenne inclusive. Il est temps de réunir le peuple libyen pour qu'il se réconcilie, a réitéré le premier ministre algérien Abdelaziz Gérard. De son côté, le président de la Commission de l'Union africaine Moussa Faki Mahamat a estimé que la crise n'a que trop duré, précisant que depuis 2011, tout a été dit et écrit sur la Libye, même si très peu a été mis en œuvre. La crise en Libye ne cesse de prendre chaque jour des tournures dramatiques, marquées par des ingérences militaires extérieures graves, a déploré le président Idriss Déby Itno. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa, également président d'exercice de l'Union africaine, a indiqué qu'ils doivent être à l'avant-garde des efforts visant à rapprocher les parties belligérantes en Libye. La représentante du secrétaire général de l'ONU, Maria Luisa Ribeiro Viotti, était aussi présente. La rencontre d'Oyo est la deuxième que le Congo abrite depuis le sommet de Berlin sur la Libye organisé en janvier. Elle intervient après la démission du représentant spécial des Nations Unies en Libye, Kassam Salamé, dont les efforts ont été loués par les présidents africains. Le 30 janvier à Brazzaville, le gouvernement algérien avait exprimé le vœu d'accueillir le dialogue interlibyen.
Le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, s'est rendu ce jeudi à Alger pour discuter des questions bilatérales et régionales. Au cours d'un entretien avec son homologue algérien, Sabri Boukadoum, M. Le Drian a évoqué le dossier libyen. L'Algérie, qui partage près de 1000 kilomètres de frontières avec la Libye, s'est récemment montrée très active dans les efforts pour un règlement politique d'un conflit qui menace la stabilité régionale. Au moins 13 personnes, civiles et combattants, ont été tuées mercredi dans de nouveaux affrontements dans le nord de la Centrafrique, pays ravagé par une guerre civile depuis 7 ans. Ekia Badou.
Des combats à l'arme lourde et légère ont fait 13 morts dans la ville de Ndélé. Il y a des civils parmi les victimes, a expliqué de Bangui, un haut responsable de la mission des Nations Unies en Centrafrique, la MINUSCA, sous couvert de l'anonymat. Depuis 8 jours, des combats opposent Ndélé, chef-lieu de la préfecture de Bamingui-Bangoran, des factions d'un même groupe armé, le Front Populaire pour la Renaissance de la Centrafrique, l'une des nombreuses milices qui se partagent les 2/3 du pays. Ce groupe rassemble plusieurs ethnies, dont 2, Ronga et Goula, s'affrontent désormais pour le contrôle des territoires et des ressources. Selon la source onusienne, les combats d'hier matin, qui ont duré 3 heures, sont consécutifs à une attaque menée dans la ville par la faction Goula du FPRC. En dehors de tirs sporadiques mercredi vers minuit, le calme est revenu à Ndélé, a précisé cette source. Les casques bleus de la force de maintien de la paix de la MINUSCA ont intensifié les patrouilles, a assuré le responsable onusien.
La mission de l'ONU au Soudan du Sud a été renouvelée ce jeudi par le Conseil de sécurité pour un an jusqu'au 15 mars 2021 avec un plafond de troupes inchangé à 17 000 casques bleus et la demande d'une révision stratégique avant le 15 décembre 2020. Alors que la voie de la paix reste pavée d'obstacles dans ce pays après 6 ans de guerre civile, le Conseil de sécurité demande dans sa résolution rédigée par les États-Unis et adoptée à l'unanimité des 15 membres à toutes les parties au conflit d'arrêter immédiatement les combats. Au Niger, au moins 8 soldats sont morts aujourd'hui dans une attaque contre leur position. Les faits se sont déroulés à Ayérou, ville située non loin de la frontière malienne. Les précisions de notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
Selon des sources locales, c'est à la mi-journée que des hommes armés sur des motos ont ouvert le feu sur des éléments des forces de défense et de sécurité à la sortie de la ville d'Ayérou. Les échanges de tirs ont duré plus d'une demi-heure avant que les militaires nigériens ne repoussent les assaillants qui ont pris la direction de la frontière malienne. Selon toujours ces sources, au moins 8 soldats ont été tués, des blessés ont également été enregistrés ainsi que des dégâts matériels. Aucune source officielle n'a pour l'instant confirmé ce bilan. La localité d'Ayérou, située à 180 km de la capitale Niamey et à quelques kilomètres de la frontière malienne, a été plusieurs fois attaquée par des hommes armés. Au mois de février dernier, 3 policiers ont perdu la vie dans 2 attaques en l'espace d'une semaine. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La pandémie du nouveau coronavirus poursuit sa progression dans le monde avec plus de 1100 cas. Les États-Unis ont annoncé une interdiction d'entrée du territoire pour les voyageurs en provenance d'Europe. Redoutant une récession, les marchés financiers subissent de fortes baisses malgré le fait qu'en Chine, on note une baisse des contaminations. Claire Morin-Gibourg.
Le président américain Donald Trump a défendu aujourd'hui sa décision de suspendre l'entrée des voyageurs en provenance d'une partie de l'Europe sans prévenir les dirigeants européens, en expliquant que cela aurait pris trop de temps. Cette décision, couplée à différentes mesures de protection, a fait paniquer les marchés financiers qui redoutent l'impact sur l'économie mondiale. Les cas de Covid-19 se multiplient inexorablement en Europe, avec notamment une explosion des cas en Espagne. Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies a averti sur le risque élevé de voir la capacité des systèmes de santé européens dépassée face à cette pandémie. En revanche, en Chine, point de départ de l'épidémie, le nombre de nouvelles contaminations quotidiennes a chuté jeudi à 15, au plus bas depuis la mi-janvier. Après avoir qualifié hier la propagation du virus de pandémie, le patron de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a tenté de rassurer en affirmant que cette pandémie était maîtrisable.
Le Capitole, siège du Congrès américain à Washington, va fermer temporairement ses portes aux touristes à partir de ce soir jusqu'au 1er avril par mesure de précaution. C'est l'annonce faite par les responsables de la sécurité, tandis qu'un premier employé a contracté le coronavirus. Puis, rappelons que le président américain Donald Trump a annoncé mercredi la suspension de tous les voyages en Europe en provenance donc d'Europe, donc à compter de vendredi. Autre conséquence du coronavirus, le voyage prévu en avril au Mali et au Niger du Conseil de sécurité de l'ONU a été reporté à une date indéterminée en raison de la pandémie du COVID-19. Et puis le premier ministre canadien Justin Trudeau a décidé de travailler de chez lui par mesure de précaution. Son épouse, qui rentre rentre d'un voyage à Londres, présente des symptômes semblables à la grippe et est en train d'être testé pour le COVID-19. Signalons également que le président philippin Rodrigo Duterte va subir à titre préventif un test de dépistage du nouveau coronavirus. C'est ce qu'indique ce jeudi son entourage. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique et dans le monde, on en parle avec Nanit Talani.
L'Égypte sollicite un soutien international et l'implication des tribunaux du Soudan contre l'Éthiopie dans le but de l'empêcher de commencer le remplissage du réservoir du grand barrage de la Renaissance éthiopienne avant la conclusion d'un accord final sur les règles de remplissage et de fonctionnement. Selon Reuters, l'Égypte demandera aussi à des pays comme l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis d'arrêter ou de suspendre leurs investissements en Éthiopie. Les banques Afreximbank, UBA et BGFI veulent racheter une partie de la dette du Congo pour l'aider à atteindre les objectifs fixés dans le programme des réformes macroéconomiques du FMI, selon le magazine Ici Brazza. Cela devrait aider Brazzaville à exécuter son programme avec le FMI. Nous avons proposé une décote à la dette du Congo pour que le pays ouvre une nouvelle dette afin de lui permettre de financer son économie, a affirmé le président de la BGFI Bank, Henri-Claude Oyima, cité par Ici Brazza. Pour terminer, l'impact du coronavirus sur l'économie mondiale est difficile à prédire, a affirmé ce jeudi le porte-parole du FMI, soulignant que cela dépendrait du degré de la pandémie et des réponses apportées par les pays touchés. La croissance mondiale en 2020 sera inférieure à celle de l'an dernier, mais à ce stade, il est difficile de prévoir de manière évidente dans quelle mesure elle va diminuer en raison de l'incertitude entourant la propagation du coronavirus. La semaine dernière, le FMI a annoncé que 10 milliards de dollars peuvent être prêtés à un taux zéro aux pays pauvres et en développement touchés par le coronavirus.
Et Yacouba Ouédraogo nous a retrouvés. Comme toujours, c'est pour parler de sport. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir John, bonsoir à tous.
La CAF maintient toutes ses compétitions malgré la propagation du Covid-19.
Oui, l'instance africaine du football a indiqué dans un communiqué qu'elle suit de très près l'évolution du coronavirus à travers le monde et sur le continent. La CAF a affirmé qu'au regard du fait qu'aucun pays africain jusqu'à ce jour n'a été déclaré à haut risque, elle maintient la programmation de toutes ses compétitions. La CAF dit respecter les mesures de restriction prises par certains pays membres avec lesquels elle est en contact pour trouver des solutions au cas par cas, pouvant aller jusqu'à l'organisation de matchs à huis clos. S'agissant du CHAN 2020, une visite d'inspection de la commission médicale de la CAF est prévue les 14 et 15 mars au Cameroun. La compétition est maintenue aux dates prévues du 4 au 25 avril 2020.
Ici aux États-Unis, la NBA, elle, suspend sa saison.
Ainsi en a décidé la Ligue nord-américaine de basketball après que le pivot français du Utah Jazz, Rudy Gobert, a contracté le coronavirus. En plus de l'effectif du Jazz, les joueurs des équipes que Utah a affrontées au cours des 10 derniers jours ont dû se mettre en quarantaine. Ce sont les Cleveland Cavaliers, les New York Knicks, les Boston Celtics, les Detroit Pistons et les Toronto Raptors. Les joueurs des Raptors ont subi des tests de coronavirus par précaution et leur franchise leur a demandé de se mettre en quarantaine pour les 14 prochains jours. La saison régulière devait se poursuivre jusqu'au 15 avril avant des playoffs menant au final prévu début juin. Ces 4 matchs sur 6 se sont déroulés la nuit dernière. Sacramento, New Orleans comme Oklahoma City, Utah n'a pas eu lieu car un des arbitres a officié lundi lors du précédent match du Jazz.
Enfin, Yacouba, la flamme olympique allumée sans spectateurs.
Oui, sur le site des premiers Jeux olympiques de l'Antiquité à Olympie, l'actrice Zanti Georgios a allumé la flamme olympique pour les JO de Tokyo de manière traditionnelle grâce aux rayons du soleil. Seul hic, pas de spectateurs à cause du coronavirus. La Grèce a annoncé son premier mort dû à l'épidémie aujourd'hui. Pour la première fois de l'histoire, une femme a débuté le relais de la flamme olympique. Il s'agit d'Anna Kourakaki, championne olympique de tir au pistolet. L'athlète grec a ensuite transmis la flamme à Mizuki Nogoshi, championne olympique japonaise du marathon lors des JO d'Athènes en 2004. La flamme sera acheminée jusqu'au Japon pour la cérémonie d'ouverture des Jeux à Tokyo le 24 juillet, face aux doutes émis sur l'opportunité de maintenir les JO à cause du coronavirus, la gouverneure de Tokyo, Yuriko Koike, a jugé une annulation impensable.
Merci, Yakuba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, John Lyndon en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour et on commence par la Guinée. Après 10 jours d'audit du fichier électoral, les experts de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, ont remis leur rapport à la Commission électorale guinéenne. Les trois experts de la CEDEAO préconisent, entre autres, d'écarter du fichier électoral 2,4 millions d'électeurs sans pièces justificatives qui y figurent. Pour en savoir plus, Yakuba Ouédraogo a joint Aboubakar Kondé, rédacteur en chef de Sabari FM, notre station partenaire en Guinée.
La première recommandation, il parle de retirer de la liste l'ensemble des électeurs qui comportent une erreur sur leur date de naissance. Ils sont au nombre de 93 électeurs. Ensuite, comme deuxième recommandation, j'estime que des cas d'enregistrement multiples, notamment les doublons, la mission a proposé qu'il y ait une nouvelle validation de ces cas de doublons et ensuite que la FINI fasse le travail pour dédoublonner un peu ces 38 282 potentiels enregistrements. Ensuite, comme troisième recommandation, il y a beaucoup d'électeurs qui ont eu des cartes multiples. Il y en a des électeurs qui ont eu 4 cartes d'électeurs, il y en a qui ont eu 3. Donc, la mission a recommandé qu'il y ait des listes de radiation qui empêcheraient ou limiteraient l'usage de ces cartes de façon multiple, c'est-à-dire qu'une personne ne puisse pas voter plus d'une fois. Et en dernier ressort, vous savez qu'il y a des chiffres qui font perdre le sommeil à beaucoup de concurrents, notamment le cas de 2 438 992 électeurs. La mission de la CEDEAO demande que ces 2 millions-là soient automatiquement retirés des listes électorales parce que simplement, ces personnes-là n'ont aucune pièce justificative dans leur enregistrement.
Alors, la CEDEAO a fait ces recommandations-là. Quelle est la suite?
Aussitôt que la CENI a reçu cette recommandation, elle s'est retrouvée et à l'unanimité, la plénière a adopté l'ensemble des recommandations de cette mission d'audit. La CENI se dit disposée à retirer de ce fichier électoral les 2 438 993 électeurs, mais également de radier les 93 électeurs qui comportent une erreur sur leur date de naissance.
Est-ce qu'il faut s'attendre à une nouvelle date d'élection dans les jours à venir?
Le président de la CENI le disait, maintenant, ils veulent aller plus vite, bien et vite. Donc, la CENI est encore pour une autre plénière, pour essayer de voir aujourd'hui quelle est la possibilité aujourd'hui pour rentrer en action et finir avec ces différents problèmes qui sont évoqués et aller maintenant pour fixer une date. Parce que si on finit avec ce travail-là, on se retrouve maintenant avec 5 millions d'électeurs sur le fichier électoral et qui semble être du goût de beaucoup de candidats, même si du côté de l'opposition républicaine, on estime encore que les 5 millions-là, ça n'est le trop et ils estiment qu'on doit être sous la barre de 4 millions et quelques électeurs.
Comment les Guinéens réagissent à ces différentes recommandations qui ont été faites à l'égard du fichier électoral?
Les opposants, ceux qui étaient contre ces élections-là, se tapent la poitrine parce qu'ils disent que ce rapport vient conforter leur position, vient justifier pourquoi ils sont retirés. Et beaucoup accusent aujourd'hui la Commission électorale nationale El Baram, qui semblait dire à l'époque que le fichier ne souffrait d'aucune contestation, alors que du côté de la mouvance, on estime que ça ne justifie pas le retour dans la course des anciens partis, notamment l'UFDG, l'UFR et le BN, de revenir dans la course. Pour ça, les Guinéens sont attentifs, ils observent. Il y en a qui disent que c'est un non-événement, il y en a qui se félicitent.
Aboubakar Kondé, rédacteur en chef de Sabari FM, joint à Conakry.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Retour ce soir sur ces violences qui ont fait 43 morts le week-end dernier dans le nord du Burkina Faso. Trois villages ont été attaqués tôt dimanche matin par des hommes armés non identifiés, selon le gouvernement. Mais au sein des communautés affectées, l'identité des auteurs ne fait aucun doute. Il s'agit des Kogleweugo, un groupe d'autodéfense déjà mis en cause dans plusieurs cas des actions. Écoutez au micro de Bagassi Koura ce témoignage de Tal Mamadou du village de Dingela.
Le dimanche 8 mars matin, 5h30, je suis à Ouaizia. Mon neveu était dans le village. Maintenant, bon, il m'a appelé ce matin à la première heure, dit bon, d'informer les villageois de quitter dans le village parce que les Congolais sont en train de venir. D'où en train de bruit, il est en train de tuer. Les gens en train de le bruit de moto. Donc, moi, j'ai appelé les villageois, je leur ai dit tout le monde n'a qu'à quitter dans les villages parce que ça ne va pas. Les gens là, ils sont en train de venir dans les villages. Bon, maintenant, bon, il y en a qui ne sont pas entendus ça. Ceux qui ont entendu, ils ont fui rentrer dans la brousse. Ils sont rentrés. Tout l'homme qu'il voit, immédiatement, il est tué. L'homme, ça suffit seulement un homme, à partir de 10 ans, s'il voit un garçon seulement, il est tué. Mais ils n'ont pas tué de femmes.
Là, vous accusez les Kogolwego, le groupe d'autodéfense. Ce qu'on dit aussi, c'est que les terroristes se promènent en groupe et en moto, comme ce que vous décrivez.
Ces gens-là, le langue qu'ils parlent, c'est-à-dire ce sont les gens. Il y a des preuves. Les Kogolwego, les terroristes n'ont jamais venu dans notre commune. Ils n'ont jamais touché quelqu'un dans la commune. Jamais. Les Kogolwego étaient venus chez nous dans. Le 8 décembre aussi, 2019, c'est les mêmes heures qu'ils sont venus, c'est les mêmes endroits qu'ils sont venus. Bon, ils sont venus entrer dans le village et dit qu'ils cherchent quelqu'un, un terroriste. C'est parce que sa maman est dans le village.
Oui, ouais. Vous dites que ce sont des Kogolwego parce qu'ils ont été reconnus tout de suite par tout le monde.
C'est-à-dire ça, c'est sûr et certain, c'est des Kogolwego. On est sûr. Même pas de doute.
Mais on dit que vous, vos villages aussi, il y a des Kogolwego qui disent que ce n'est pas eux.
Non, mais c'est obligé, ils vont dire ça parce qu'ils sont mentis. On sait que c'est eux. Nous, on sait, on le sait. Si l'enquête continue, on va les trouver.
Vous pensez qu'il y a une enquête en ce moment?
Vraiment, je ne sais pas. Mais quand même, l'État est en train de faire quelque chose au niveau des populations. Toute la population des villages et tous les villages de communes de Barga, ils sont tous entrés à Ouaizia. Ils ont eu peur parce qu'il n'y a plus de sécurité.
Est-ce que depuis que vous vous exprimez dans les médias, est-ce que l'autorité a essayé de vous entendre aussi?
Non.
Et donc les populations ont quitté la région alors?
Ils sont tous quittés dans ces communes. D'ailleurs, même celles dans le réseau, elles sont en train de courir, rentrer à Ouaizia.
Et qu'est-ce que le gouvernement peut faire en ce moment pour assurer toutes ces populations-là?
Bon, au niveau de sécurité, je ne peux pas savoir, mais vraiment, il y a beaucoup de projets, il y a l'action sociale. Ils ont donné un terrain à la population, ils sont en train de construire des tentes. Ils disent tout le monde d'aller là-bas. Peut-être demain, ils vont quand même commencer à les aider parce que tout le monde a pu laisser leur vivre. Maintenant, bon, peut-être qu'ils vont les aider. Ça, le gouvernement est en train de faire ça.
Témoignage de Tal Mamadou du village de Dinguela au Burkina Faso.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou sur le 102.4 FM.
Le mois de janvier a été le plus meurtrier dans l'est de la République démocratique du Congo depuis juin 2017, avec 210 morts parmi les civils, selon un rapport du baromètre sécuritaire du Kivu, qui met en cause la capacité de l'armée régulière à faire face aux groupes armés. Idi Sango a joint le point focal du baromètre sécuritaire du Kivu à Beni, Jack Bouyaza.
Actuellement, depuis le début de l'année, il y a une sécurité dans toute la zone. Et autour de la zone de Beni, vous avez l'activisme de Zandier qui se sont accentués beaucoup plus sur la zone de Beni et du côté de Mangina. C'est qu'on a enregistré beaucoup plus de morts. Et du côté de l'activisme des groupes armés, plusieurs groupes armés, les NDC, les Mazembe, les SPP, qui parfois font des attaques contre les postes de police, mais aussi contre les cas militaires des FARDC. Et c'est qu'il faut que ces affrontements-là soient toujours suivis des cas de mort que nous enregistrons. Pour la ville de Beni et la ville de Butembo, c'est beaucoup plus la criminalité urbaine qui s'accentue aussi dans les deux villes, dans le Grand Nord ici, mais aussi la ville de Goma et Bukavu. Ça fait que le nombre de civils que nous chaque jour a pu augmenter depuis le début de cette année.
Vous parlez en fait de 210 civils qui ont été tués depuis janvier. Pourtant, depuis fin octobre de l'année dernière, l'armée congolaise mène des offensives dans l'est de la RDC. Vous pensez qu'elle n'est pas en mesure d'assurer la sécurité des civils? Qu'est-ce qui manque?
L'armée mène des offensives, des positions rebelles des ADF dans la profondeur, alors que sur la route, dans les grandes agglomérations, ce sont les ADF qui opèrent matin, midi, à côté même de quelques cas de la munition. Et, à crainte d'être contredit, l'armée n'a pas été en mesure de protéger la population. La munition
qui n'ont pas été en mesure de protéger la population, ce qui fait qu'on a enregistré plusieurs cas pendant que les espoirs étaient en train d'affronter les ADF dans la profondeur. Et sur les agglomérations, il y a une de Beni et Mangina et même une partie. Le territoire de l'Ituri a été attaqué beaucoup plus par les ADF qui s'est manifesté dans les assassinats de paisibles citoyens dans cette zone.
Mais qu'est-ce qui explique les regains de l'activisme des groupes armés en ce moment?
D'abord, le fait que l'armée a beaucoup plus communiqué sur le lancement des armes. L'armée a sensibilisé beaucoup plus sur le lancement des opérations et les groupes armés se sont préparés. Selon les informations, alors le plus grand groupe armé à zone Beni qui est à l'est a migré vers l'ouest. Et là, c'est à présenter à rester uniquement à l'est, alors que les Indiens ont migré à l'ouest, là qu'ils ont fait beaucoup plus de massacres.
Vous dites aussi que c'est question de manque de logistique.
Je ne dirais pas ici parce qu'on a déjà dénoncé depuis longtemps qu'il y a des commandants qui sont restés beaucoup plus dans la zone et qui sont devenus des commerçants, des cacao, dans les bois. Et puis les trafics par rapport à la frontière, je ne vais pas le dire. Il y a eu relèvement de troupes, mais certains commandants sont restés dans la zone.
Jacques Boaza, point focal du baromètre sécuritaire du Kivu à Beni.
Abdourahmane Dia avec vous. Cette semaine dans Washington Forum, le combat pour l'égalité. Plus de 100 ans depuis que la Journée internationale des femmes a été célébrée pour la première fois. Je suis de la génération Égalité, levez-vous pour les droits des femmes est le thème de cette année. L'occasion pour nous de faire le point sur les avancées dans les domaines politiques, économiques et sociaux, mais aussi les obstacles. Le chemin encore à parcourir pour arriver à l'égalité. Nous allons discuter de tout cela avec nos invités ce jeudi à 19h, temps universel. Vous pouvez réagir sur la page Facebook de VOA.
Le président Donald Trump a annoncé des mesures sans précédent face à l'épidémie du coronavirus. Les voyageurs ayant récemment séjourné en Europe sont interdits d'entrer sur le territoire américain pour un mois. Les citoyens américains, eux, seront mis en quarantaine. Cette décision a profondément choqué les autorités européennes et a fait plonger les bourses. Claire Morin-Gibourg.
Avec plus de 1300 cas et au moins 38 décès aux États-Unis, le président américain Donald Trump a annoncé hier soir une réponse sans précédent.
Nous allons suspendre tous les voyages depuis l'Europe vers les États-Unis pendant les 30 prochains jours. Les nouvelles règles entreront en vigueur vendredi à minuit.
L'interdiction de voyager aux États-Unis ne s'applique pas à la Grande-Bretagne ni à l'Irlande. Les citoyens américains de retour d'Europe seront mis en quarantaine, a précisé Mike Pence ce matin. Une décision justifiée par le vice-président américain par le nombre alarmant de cas en Europe.
Des dizaines de milliers de personnes se rendent chaque jour aux États-Unis depuis l'Europe. 70% des nouveaux cas dans le monde se trouvent en Europe et une trentaine de contaminations que nous avons ici peuvent être attribuées à des contacts avec l'Europe.
L'Union européenne a fustigé aujourd'hui la décision de Donald Trump car cette mesure risque de peser lourdement sur l'économie. La Banque centrale européenne a présenté une série de mesures pour calmer les marchés financiers et soutenir l'économie. Partout dans le monde, les marchés boursiers ont subi de lourdes pertes. À New York, la panique était telle que les échanges ont été suspendus pendant 15 minutes après l'ouverture à Wall Street. L'Organisation mondiale de la santé a affirmé aujourd'hui à Genève que cette pandémie du nouveau coronavirus est maîtrisable avec une surveillance robuste pour briser les chaînes de transmission.
C'est la fin de cette édition mise en onde par Joselle Morissin. Eden Oku était à la console. John Linden vous a présenté ce journal. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et à vous d'avoir suivi. Excellente soirée à l'écoute des programmes de VOA Afrique. Bonsoir.
écouté Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. Sur 99 FM Abidjan, à Brazzaville sur 101.9 FM, à Lomé 99.5 FM, 92.9 FM, Bahia, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
VOA Afrique, les